Go ahead and turn to Galatians chapter 3, verse 25.
Tournons-nous à Galates 3, verset 25.
Today we're going to be going into the application of the arguments that we study.
Aujourd'hui, on va regarder les applications des arguments, des points qu'on a regardés les deux dernières séances.
And in general, the big idea of Paul's letter to the Galatians.
Et on va voir l'idée générale de la lettre de Paul aux Galates.
Is that the application leads to us being a son of God.
L'application, c'est que nous soyons, que nous devenions des enfants, des fils et des filles de Dieu.
And I don't know if you guys agree with me on that concept, but it's kind of hard to grasp.
Alors on va voir si on est tous d'accord avec cette idée, ce concept. C'est un petit peu difficile à saisir.
That you, in Christ, are a son of God, or
que,
daughter of God.
Que tu es en Christ un fils ou une fille de Dieu.
In fact, in Hebrews it says, in Hebrews chapter 2,
dans Hébreux chapitre 2,
it says that we are sons of God with Jesus. So actually, we are brothers with Jesus.
Which verse is that? 13? Dans Hébreux, chapitre 2, verset 13, il dit, le passage dans Hébreux, chapitre 2, du verset 10 au verset 13, parle du fait que nous sommes enfants de Dieu de la même manière que Jésus, et que d'une certaine manière, nous sommes frères ou sœurs de Jésus.
And, well, let's get into the section. We're going to go a little bit deeper.
Regardons maintenant notre passage dans Galates et on va voir ce concept, cette idée.
Read 3:25 through 4:7.
Okay. On va lire à partir du verset 25 dans le chapitre 3 de Galates. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ.
Let's pray.
Prions.
Heavenly Father, we thank you for your Spirit.
Père Céleste, nous te remercions pour ton Esprit Saint.
That will remind us of the great truth of us being a son of God.
Qui va nous rappeler, nous faire comprendre ce que ça veut dire d'être ton fils ou ta fille.
And we pray that we would not only understand this truth.
Nous prions que non seulement nous arrivions à comprendre cette vérité,
but that like your son we would be transformed into the image of Jesus Christ.
Mais que nous puissions aussi être transformés en l'image de Jésus-Christ.
In Jesus' name.
Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Okay, so picking up at verse 25, just to get a little bit of context.
Donc on commence au verset 25 pour se donner un petit peu de contexte.
We concluded with the argument of the true purpose of the law.
On avait fini avec l'argument concernant le vrai objectif ou le vrai but de la loi.
And it says in verse 25 that after faith, after Jesus, after his death and resurrection has come, we are no longer under a tutor or a guardian.
Et on a vu qu'après que Jésus soit venu, après qu'il soit mort et ressuscité, que nous pouvons venir à Dieu par la foi, nous ne sommes plus soumis à ce guide ou ce tuteur que constitue la loi.
So we see, in addition to the law showing us our sin and convicting us of sin, we see that the law actually prepared us to be a son of God.
Et donc en fait, on voit que la loi, en plus de nous préparer, de nous montrer, de nous guider, nous a préparé aussi à devenir les enfants de Dieu.
And we see that this is a comfort to me, because when the law still speaks in my life, when I feel guilty because of the things that I have done wrong.
Et ça doit nous réconforter ou nous encourager, parce que quand la loi nous interpelle, nous reprend ou nous fait peut-être nous sentir coupable pour quelque chose que nous avons fait.
God is saying, I'm preparing you to be a son or a daughter.
Dieu est en fait en train de nous dire, je suis en train de te préparer pour que tu sois mon enfant.
So in regards to guilt or shame or sin in our life.
Donc concernant le sentiment de culpabilité ou la honte ou le péché dans nos vies,
we can come to God because he is saying, I am preparing you, even through this harsh law, I am preparing you to be a son.
On peut venir à Dieu et il nous dit, malgré la dureté, la difficulté de la loi, je suis en train de te préparer pour être mon enfant.
And then we have the conclusive statement in verse 26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
Et on a une forme de conclusion, verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
And now we need to differentiate, because clearly God created all mankind. Agreed?
Maintenant, il faut faire une différence. On est d'accord que Dieu a créé tous les hommes, oui?
In Acts chapter 17 and 1 Corinthians chapter 8.
Dans Actes chapitre 17 ou dans 1 Corinthiens chapitre 8.
Paul confirms that we are all mankind, offspring of God.
Paul dit que nous sommes tous issus de Dieu, tous créés à l'image de Dieu.
So all, in that sense, everybody is created by God. We are all God's offspring.
Nous sommes tous descendants de Dieu, créés par Dieu.
Creatively.
Par sa création.
But we are not all sons of God redemptively.
Mais nous ne sommes pas tous des enfants, des fils ou des filles de Dieu par la rédemption.
John 14:6, which a verse which most people are familiar with, makes it clear that only through Jesus Christ can you have access to God.
Jean 14:6 est un verset qui nous fait comprendre que seuls les enfants de Dieu peuvent avoir accès à Dieu.
John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi.
So here in Galatians chapter 3, verse 26, we see again that the channel of our access to God only comes inside of Jesus Christ.
Donc on voit que le seul moyen d'accéder au Père, le seul passage pour accéder au Père vient en Jésus-Christ.
We are made a part of God's family, his sons and daughters, part of his intimate family only by Jesus Christ.
Et nous pouvons intégrer sa famille, les gens qui lui sont proches, ses enfants, ses fils et ses filles, que par Jésus-Christ.
And now we see in verse 27 a couple metaphors of the reality of being a son.
Verset 27, dans Galates 3, on voit deux métaphores pour illustrer cette idée d'être les enfants de Dieu.
We have two metaphors here. We have baptism.
Il y a la métaphore du baptême.
And clothing.
Et l'idée d'être revêtu.
So So he says in verse 27, as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
Il dit en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ.
Now this baptism is not talking about a physical baptism.
Ici, le baptême dont il est question, ce n'est pas le baptême physique.
Because clearly, being baptized into Christ is not directly linked to physical baptism.
Parce que c'est clair que le baptême physique n'a rien à voir avec le baptême en Christ.
But rather, physical baptism is an image of the spiritual reality of us being baptized into Christ.
Le baptême physique, c'est une image, une représentation externe d'une réalité spirituelle en Christ.
Because the reality is you can be a Christian and not have been physically baptized, but you cannot be a Christian if you have not been spiritually baptized.
Et l'idée, c'est qu'on peut être baptisé physiquement sans être chrétien, mais on ne peut pas être chrétien sans avoir été baptisé en Jésus-Christ spirituellement.
Because baptism is not just getting wet.
Le baptême, c'est pas seulement se mouiller physiquement.
Okay. So baptism is it signifies a change of nature.
Le baptême signifie un changement dans la nature même de ce que nous sommes.
Let me illustrate by telling you about pickles.
Il veut nous donner une illustration avec des cornichons.
Okay. So, pickles, there's two words used for baptism. You can say there's two words used for baptism.
Il y a deux mots utilisés pour le mot baptême.
One represents a dipping.
L'un signifie le fait de tremper quelque chose.
And so if we take a pickle and we dip it.
Donc si on prend un cornichon et on le trempe,
all we have is a wet pickle.
Tout ce qu'on a, c'est un cornichon mouillé.
But there's another word for baptism that signifies a change from one thing to another.
Mais il y a un autre mot qui signifie pour le baptême le changement d'une chose à une autre.
And that comes when you place a pickle in vinegar for a long time.
C'est ce qui se passe quand on met un cornichon dans du vinaigre pendant très longtemps.
It is not the same vegetable that it once was.
Ça va plus être le même aliment que c'était avant.
You're laughing, but this is in the Greek. So, we see that baptism does not just mean you get wet. It means that you've been submerged into Christ and you are taking on his nature.
Donc le baptême, ça veut pas seulement dire qu'on a été trempé, ça veut dire qu'on est submergé par Jésus et qu'on a pris nous-mêmes, on a pris sa nature.
The second metaphor we're given is clothing.
La deuxième métaphore, c'est l'idée de vêtements.
And it's reflected in the word you have put on Christ.
Et on le voit dans la deuxième partie du verset, vous vous êtes revêtu de Christ.
And this word in the Greek is usually translated regarding putting on clothes.
Et ce mot qu'on voit là, revêtu, est traditionnellement utilisé pour signifier qu'on a mis des vêtements.
And simply, you could illustrate this to mean that we have all put on Christ's gift righteousness.
Et on pourrait dire qu'on a simplement mis le vêtement de la justice que Christ nous a donné.
But it means something more than just putting on Christ's gift righteousness.
Mais ça veut dire quelque chose de plus que simplement revêtir cette justice, ce don que Dieu nous a fait.
Paul is using this metaphor that is used in the Old Testament to convey the controlling power of the Holy Spirit.
Paul est en train d'utiliser une métaphore, une image qui revient dans l'Ancien Testament et qui indique un contrôle par l'Esprit Saint.
Go ahead and turn to Judges chapter 6.
Tournez-vous dans Juges chapitre 6 dans l'Ancien Testament.
In Judges chapter 6, we have the story of Gideon.
Dans Juges chapitre 6, nous avons l'histoire de Gédéon.
And Gideon rose up in the midst of a culture that did not believe in God.
Gédéon a grandi au milieu d'une culture qui ne croyait pas à Dieu.
And he destroyed the cultural idolatrous icons of his fathers.
Et Gédéon a détruit les icônes, les idoles de ses pères.
And God would use him to rid his father's land of their enemies.
Et Dieu va utiliser Gédéon pour libérer le pays de des ennemis d'Israël.
But look at verse 34 of Judges chapter 6.
Et regardons Juges chapitre 6 verset 34.
After God had called Gideon and after he had destroyed the idolatrous cultural icons of his fathers, it says that the Spirit of the Lord came upon Gideon.
Après que Gédéon ait battu les ennemis du peuple et qu'il ait enlevé toutes les idoles, toutes les stèles aux faux dieux, on voit verset 34 qu'il est dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel.
And notice what this coming upon of the Holy Spirit produces. It says that Gideon blew the trumpet and all of these people gathered behind him.
Notez le résultat quand Gédéon est revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonne de la trompette et il a des gens qui marchent à sa suite.
And this is the beginning. God's Spirit inspires Gideon to call out to all the armies so that they would eventually gather, how many? 300, only 300, to go into battle and to defeat all of his father's enemies.
Et plus loin, on voit que donc, avec ces gens qui viennent à sa suite et avec la direction de l'Esprit Saint, ils arrivent à réunir 300 personnes seulement après la direction de Dieu, mais qu'avec ça, il y aura une victoire étonnante.
But the word came upon is the same type of word used here in regards to clothing oneself.
Mais on voit ici qu'on a le même mot qui est utilisé dans Galates quand on voit au verset 34 que Gédéon fut revêtu de l'Esprit.
So we see that here, when God's Spirit clothes you, or when you are clothed in Jesus Christ, it signifies the fact that you are now actually led by Jesus Christ, and He is inspiring you in your behavior.
Et donc, l'idée dans Galates d'être revêtu de Christ, c'est l'idée d'être dirigé, d'être conduit par Jésus-Christ. C'est lui qui vous inspire et qui vous guide.
One more example in 1 Chronicles chapter 12.
Dans 1 Chronique chapitre 12, on peut voir un deuxième exemple de ça.
Again, we have in 1 Chronicles chapter 12, verse 18.
Dans 1 Chronique chapitre 12, verset 18.
Again, we have the Spirit of the Lord coming upon or clothing a man and inspiring words that lead to godly action.
Verset 19, pardon. On voit encore une fois un homme de Dieu être revêtu de l'Esprit et avoir une grande influence sur l'histoire.
So, being a son of God signifies two things first in Paul's mind. It means that your nature has changed.
Donc pour Paul, être les enfants, être le fils de Dieu, ça signifie deux choses. Ça signifie prendre une nouvelle nature, la nature même de Christ.
And it means that you are led by something different than your own desires and your own wishes.
Et ça implique d'être conduit, d'être dirigé par autre chose que vos propres désirs et souhaits.
You are even led by something different than the cultural push of everyone around you.
Vous êtes aussi dirigé par quelque chose de différent que la culture, le monde et ce qu'il incite autour de vous.
And we should not be surprised if we are different than the culture around us, because Jesus Christ, through his clothing us, is changing us and making us different, sticking out.
Et donc ça ne devrait pas nous étonner si nous sommes en contraste avec le monde autour de nous, si nous sommes différents, si nous ressortons, si nous ne sommes pas comme les gens autour de nous, parce que Jésus nous change et nous fait vivre et agir autrement.
I say this because Paul in giving his arguments has completely destroyed our own works-oriented righteousness of proving ourselves through legalism to God.
On vient de voir toute la défense de Paul contre la justification par les œuvres, par nos propres mérites vis-à-vis de Dieu.
But he has not eliminated us from living a holy life.
Mais ça ne nous excuse pas, ça ne nous enlève pas le fait que nous devons vivre une vie sainte.
But this life that now comes, this holy life where we are different, comes naturally by God's inspiration within us.
Mais cette nouvelle vie, cette vie changée doit venir naturellement à cause du changement que Jésus-Christ produit en nous.
We will see in Galatians chapter 5 on Tuesday that yet we still have a war within us between what the Bible calls the flesh and now the indwelling of God's Spirit.
On verra mardi dans le chapitre 5 qu'il reste un combat en nous à cause de notre chair et de l'esprit qui est en nous, qui sont opposés.
But God continually wants us to be changed into the image of His Son and for us to be led into behavioral differences with the world.
Mais Dieu veut que nous soyons conduits par Son Fils et que nous continuions à nous comporter de manière différente que celle du monde autour de nous.
But in regards to being the Son of God, I want to ask what you guys think are positive traits of being a son. Or a daughter.
Quelles sont pour vous des choses positives dans l'idée d'être le fils ou la fille de quelqu'un?
What would be positive traits that you guys would think are good things about being a child of a godly parents?
Pour vous, être les enfants de parents qui vivent pour Dieu, quels sont les aspects positifs de ça? A belonging, a sense of belonging.
Okay, definitely. Mm-hmm.
Yeah.
To honor the parents.
What's that?
To honor the parents.
To honor the parents, definitely.
D'honorer les parents.
La ressemblance.
Care. Yeah. What'd you say?
Resemblance.
Definitely. You will look like Jesus.
On va ressembler à Jésus.
And your nature should affect your biography.
Votre nature doit affecter votre biographie.
Right?
Mm. Oui.
So if you look like God, it should affect the way that you live.
Donc si vous ressemblez à Dieu, ça doit affecter la manière dont vous vivez.
What are some other positive characteristics to being a son? Let's just think purely human for a second. Positive characteristics to being a son or daughter of good, godly parents.
Juste pour penser sur les aspects humains, avec des parents humains, mais des parents qui seraient bons et qui croyants, quels seraient des aspects positifs d'être leurs enfants? Rich.
Okay. Prosperity. Let's stop there for a second.
La prospérité.
Is God rich?
Est-ce que Dieu est riche?
Is God materially rich?
Est-ce que Dieu est matériellement riche?
Maybe so, maybe not. People agree, no?
On est d'accord, pas d'accord?
Everything in the world belongs to God, essentially.
Tout ce qu'il y a dans le monde appartient plus ou moins à Dieu, non?
In one sense, God is materially rich.
D'une certaine manière, Dieu est matériellement riche.
But Jesus was not materially rich.
Mais Jésus ne l'était pas.
So we see
that.
Why wasn't Jesus materially rich?
Pourquoi est-ce que Jésus n'était pas matériellement riche?
What's that?
Pour nous montrer avec ce qui compte.
To show us that what counts isn't the material.
Pour nous montrer la primauté du spirituel sur le matériel.
He came to show us that that the spiritual is more important than the material.
Okay. That is exactly right, but just think of it in the manner of incarnation. Philippians chapter 2.
Pensez à l'incarnation. Philippiens chapitre 2. Dieu s'est humilié lui-même.
And so we see that his root in humility precluded him from attaining his mission by man's natural means, which would be wealth.
Et le fait de s'humilier lui-même, ça a enlevé la possibilité d'accomplir sa mission par les moyens humains avec la prospérité, la richesse ou la puissance qu'auraient utilisé les hommes pour accomplir leurs objectifs.
Which leads us to understand that riches are not evil, but they are not necessary to attain God's mission.
Et donc nous devons comprendre que les richesses ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas nécessaires pour atteindre ce que Dieu veut pour nous.
What other things do you think would be positive characteristics of being a son or a daughter?
The freedom.
Okay, freedom.
La liberté.
In what way?
De quelle manière?
Ça nous permet.
Think of it in respect to prosperity.
Mm-hmm. Pensons par rapport à la prospérité.
If you have money, you don't have to work. Yeah. Right?
Si vous avez de l'argent, vous n'avez pas besoin de travailler.
We all wish we had money so we didn't have to work.
Et on aimerait bien tous avoir de l'argent pour pas avoir à travailler.
But spiritually, we have riches so we don't have to work.
Mais spirituellement, nous avons des richesses et donc nous n'avons pas à travailler.
What other any other thoughts of free? I mean, in being a son of God, maybe it would be helpful to think of Jesus. What are some ways that Jesus is free?
Pour penser à cette idée d'enfant de Dieu, pensons peut-être à Jésus. De quelle manière est-ce que Jésus est libre?
He's free from sin. Okay, he's free from sin.
Il est libre du péché.
Everything that revolves around sin.
Tout ce qui va avec le péché.
Guilt, shame.
La culpabilité, la honte.
Condemnation.
La condamnation.
The
corruption. Corruption, exactly.
La corruption.
We'll see that in our inheritance, we actually inherit incorruption because we are free in Jesus Christ.
On verra que par l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, nous héritons aussi d'une absence de corruption en Jésus.
Anything else? How Jesus was free?
Quels sont les autres aspects de la liberté de Jésus?
Freedom from fear, de la peur.
From fear. Definitely. From fear. I mean, this is a fear. I mean, just on a very basic level, you fear what people think. You fear how you look. It's kind of a motivational factor in what gets you going in the morning because you're interested in what other people say.
La peur, c'est quelque chose de très fort dans nos vies. On a peur de ce que les gens pensent. On a peur de ce à quoi on ressemble. On a peur de ce que pensent les gens. Ça nous motive de bien des manières.
On a more intense level, governments use fear to help rule their people. Some religious people use fear to control their congregants.
les gouvernements utilisent la peur pour diriger, pour gouverner les peuples. Les autorités religieuses peuvent aussi utiliser la peur comme moyen pour motiver, pour diriger, pour contrôler les gens qui sont sous leur direction.
Now, it's not to say there isn't a proper fear.
C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des fois des raisons justes d'avoir peur.
If I'm on the edge of a really tall cliff,
si je suis sur le bord d'une falaise très très haute,
there's a proper fear that keeps me away from the edge.
Il y a une peur qui a un bon effet sur ma vie, qui me garde du bord.
But there is also a fear that paralyzes people on the edge.
Mais il y a aussi une peur qui paralyse les gens sur le bord, qui les immobilise sur le bord.
And that's not the kind of fear that God gives.
Et c'est pas le genre de peur que Dieu veut nous donner.
What other things come from being a son of God?
Quelles sont d'autres choses qui viennent du fait d'être enfant de Dieu?
You're taken care of.
Okay.
On prend soin de nous.
What about stability?
La stabilité.
You guys, stability, consistency, faithfulness, those aren't terms that we enjoy.
La stabilité, la consistance, la fidélité, ce ne sont pas forcément des mots que nous apprécions.
But, you know, since Jesus Christ is our righteousness, it's not dependent on our instability, but it's dependent on his ultimate stability.
Mais puisque Jésus est notre justice, puisque c'est lui qui nous justifie devant Dieu, notre salut ne dépend plus de notre inconstance, de notre instabilité, mais de sa stabilité éternelle.
So, this, remember, this is a father-daughter or a father-son relationship.
Rappelez-vous, c'est une relation père-fille ou père-fils.
So, when you're going through unstable times,
quand vous avez des moments instables avec...
Apart from you saying that, you know, general things like God knows.
À part le fait de dire des choses comme Dieu sait.
Or God will get me through this.
Dieu va m'aider à traverser ça.
Which is your backhanded way of saying, "Dang it, God, you're taking too long."
qui est une manière de dire à Dieu, zut, tu qu'est-ce que tu fais? Tu prends trop de temps là, Dieu, à résoudre ce problème.
You can know a God who create stability in the midst of instability.
On peut connaître un Dieu qui crée de la stabilité, de la constance au milieu de l'instabilité.
Or who makes instability stable.
Ou qui rend l'instabilité stable.
A couple last things. Being a son of God also provides us safety.
Être un enfant de Dieu, ça nous donne de la sécurité.
When you have a family around you,
quand vous avez une famille autour de vous,
and some person comes to get you,
et quelqu'un vient pour vous atteindre, pour vous attaquer,
they gotta mess with your family before they mess with you.
Il faut qu'ils s'attaquent aussi à votre famille avant qu'ils puissent vous faire quelque chose.
Right?
Oui.
Yeah, they're gonna beat down before they get to you.
Il faut qu'ils traversent d'autres rideaux avant d'arriver à vous.
And in the same way, no one can bring a charge against us, Romans chapter 8 says.
Et de la même manière, Romains chapitre 8 dit que personne ne peut nous attaquer.
Because God is our judge.
Parce que Dieu est notre juge.
And if God is our judge,
et si Dieu est notre juge,
then no enemy can bring an accusation against us when he's already judged us righteous through Christ.
Alors aucun ennemi ne peut amener d'accusation contre nous quand Dieu nous a déjà jugés comme justes en Jésus-Christ.
Not to mention the authority we possess in the midst of spiritual attack.
Sans parler de l'autorité dont nous disposons au milieu des attaques spirituelles.
To command in Jesus' name that those spirits that would oppress us would be gone.
Nous pouvons commander et dire des choses aux esprits et aux, et aux, et aux puissances qui veulent nous attaquer, nous opprimer, nous pouvons parler au nom de Jésus contre ces choses.
Another aspect of being an intimate child of God is that God is our teacher.
Un autre aspect dans l'idée d'être un enfant de Dieu, c'est que Dieu est un enseignant.
Since God is your teacher, if you have a question about God, you can just ask him.
Et puisque Dieu veut nous apprendre des choses, quand on a des questions, quand on veut savoir quelque chose à propos de lui, on peut simplement lui demander.
And we see even in 1 Corinthians chapter 2,
et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 2,
it says that God has revealed the things, the great things of God through his Spirit. First time.
Chapitre 10, il est dit: Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu.
And it says, look at verse 12.
Et regardez verset 12.
It says, we have received not the spirit of the world. The world is not our father.
Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde n'est pas notre père.
But we've received the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God.
Mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donné par sa grâce.
So we see that God is not only our father, but he is by right our teacher.
Et donc Dieu n'est pas seulement notre père, mais c'est aussi notre professeur, notre maître en quelque sorte.
And this is actually unique of the new covenant.
Et ça c'est quelque chose d'unique par rapport à la nouvelle alliance.
Look in Hebrews chapter 8.
Regardez Hébreux chapitre 8.
He says in verse 10.
Hébreux chapitre 8 verset 10.
Said, this is my covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their people, and they shall be my people. Verse 11 says, none of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their lawless deeds. I will remember no more.
Verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes.
So, especially in a culture and an age where good, godly parents are rare.
D'autant plus dans une culture, dans un monde, dans un âge où des bons parents qui suivent, qui recherchent Dieu sont rares.
And where many grow up without a father or a mother both together.
Et dans un monde où il y a peu de gens qui grandissent avec un père et une mère qui restent ensemble,
we see that God provides the stability and the teaching that a family unit needs, specifically in the Church of God.
On voit que Dieu fournit lui-même la stabilité et l'apprentissage, la connaissance, la connaissance dont on a besoin dans la famille de Dieu.
The last thing about being the son of God is that we have ultimate access to God.
La dernière chose dans l'idée d'être un enfant de Dieu, c'est que nous avons un accès ultime auprès du Père.
Now, I think that it's frustrating for people when you're talking with them and their kid comes up and interrupts your conversation, right?
C'est pénible quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et leur enfant arrive et interrompt votre conversation.
But that's the right of a child.
Mais c'est le droit dont dispose un enfant.
If a stranger came up and interrupted the conversation,
si un étranger, un inconnu vient et interrompt la conversation,
you would just think how rude.
On pensera, mais quelle impolitesse.
But a child is different.
Mais c'est différent avec un enfant.
You don't shrug him off as some sort of stranger.
On l'écarte pas comme un inconnu.
You welcome them and you listen to what they have to say because they are your kid.
Quand ce sont vos enfants, vous les accueillez, vous les acceptez, vous les écoutez à ce moment-là parce que ce sont vos enfants.
And you don't find that kids are nervous about approaching their parents.
Et les enfants, de manière générale, ne sont pas nerveux à l'idée d'approcher leurs parents.
You don't find kids asking, well, excuse me, mother.
C'est rare qu'un enfant dise, excuse-moi, maman.
It's usually from across the room, mom!
En général, de l'autre côté de la pièce, maman!
They interrupt everything and everybody's looking at them.
Ils interrompent tout et tout le monde le regarde.
And so, like a child to his parent, Hebrews says that we can come boldly, annoyingly, to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace and help to help in time of need.
Et donc, comme des enfants dans le monde, des enfants physiques, nous pouvons nous approcher avec assurance de Dieu, du trône de grâce, il est dit dans Hébreu, nous avons cette assurance.
So, let's move on to verse 28 of Galatians chapter 2.
Regardons verset 28 dans Galates 3.
So, what three things do not matter in when we are all made one in Christ Jesus from verse 28?
Dans le verset 28, on voit trois choses qui n'ont aucune importance en Christ.
Whether you're a Jew or a Gentile.
Okay.
Si on est juif ou païen.
So, in general, what's a term for nationality besides nationality?
À part le mot de nationalité, quel serait un mot pour cette idée-là?
Whether you're a son of the promise in the flesh.
Okay. Definitely, you could be.
Si on est fils de la chair ou de la promesse.
Any recognition through birth does not matter in Jesus Christ.
Il n'y a aucune importance liée à l'identité que nous avons, que nous recevons à la naissance.
And some people feel like they've been shortchanged because they don't have a good family.
Mais certaines personnes ont peut-être un sentiment d'injustice parce qu'ils ont une famille peut-être mauvaise ou ils ont eu des problèmes et ils se disent à la naissance on m'a fait injustice en quelque sorte.
But in Christ, it's all equal.
Mais en Jésus, il y a égalité.
What other things besides nationality? Okay, so what is that? Social status? What else?
Esclave ou homme libre.
Okay, so we have slavery and versus freedom, which is basically can indicate social status.
Donc c'est soit la liberté, soit l'esclavage, l'asservissement, et on peut considérer ça comme comme le statut social.
Which also indicates employment status or education.
Ça peut être l'éducation, notre situation de travail.
Because obviously a slave would probably usually not be educated like a free person would.
Parce que sans doute de manière normale un esclave n'est pas aussi éduqué ou éduqué de la même manière qu'un homme libre.
And also a slave would not have access to good jobs like a free person would.
Et un esclave n'aurait pas les mêmes accès au bon travail qu'un homme libre.
But still, even today, even though slavery in the sense of the Bible does not exist in the same way, we still use our education, our employment, or our social status as I'm better than you, I have better access to God, I know God better because I've been educated.
Mais même si aujourd'hui on n'a plus forcément dans notre société les mêmes concepts d'esclavage et d'homme libre, on se sert quand même de manière très régulière de notre statut social, de notre éducation, de notre travail, de notre situation pour nous différencier, pour nous comparer aux gens autour de nous, de dire « moi je suis mieux que toi, moi je comprends mieux Dieu, moi je suis plus près de Dieu parce que j'arrive mieux à étudier ou à comprendre les choses que toi ».
And then the last thing we see that doesn't matter is your gender.
Et la troisième chose on voit qui n'a pas d'importance, c'est votre sexe.
Now, we see that in Christ these things don't matter spiritually. Obviously, there is a difference between a man and a woman.
Évidemment, il y a une différence entre homme et femme. Mais on voit quand Jésus, ces choses n'importent pas.
And obviously, Jesus isn't trying to make fun of the educated or to make the uneducated feel bad.
Et Jésus ne veut pas. Ici, on ne veut pas se moquer des gens qui sont éduqués, mettre des choses sur leur dos ou pareillement pour ceux qui ne sont pas éduqués.
But spiritually, playing field is equal.
L'idée, c'est que spirituellement, on est sur un pied d'égalité.
And then, corporately, as a church,
en tant qu'église, avec un sentiment de communauté,
we're not to pay special treatment to people because of their social status, their gender, their employment, their education, who their family is, their wealth, anything like that. We are only to look at them through the eyes of God.
En tant qu'Église, on ne doit pas donner de traitement préférentiel à des gens qui font partie de l'Église, à des gens qui ont un statut, ils sont enfants d'un certain, ils sont qui ont une certaine richesse, un certain travail, une certaine position. On doit les regarder à travers les yeux de Jésus et les considérer sur un pied d'égalité avec tous les autres membres de l'Église.
But also for those of us who don't have the family or the employment or the education or the social status.
Ça s'applique aussi à ceux d'entre nous qui n'avons pas l'éducation ou la richesse ou une certaine situation sociale.
There's no need for us to flamboyantly draw attention to ourselves because we haven't received it in the same way that the privileged people have.
On n'a pas à chercher la reconnaissance ou l'attention ou la gloire parce que nous ne l'avons pas reçue, parce que nous manquons de ces choses-là dans notre vie.
And so I have seen both. I see people who boast in the things that they have.
Jordan a vu les deux choses. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se vanter des choses qu'ils ont.
And I've seen people focus on the things that they don't have.
Et il a vu des gens se focaliser, se concentrer sur les choses qu'ils n'ont pas.
Instead of being made whole by Christ.
Au lieu de laisser Jésus les rendre complets.
So in verse 29 says, and if you are Christ.
Et donc verset 29 dit, si vous appartenez à Christ.
As you belong to Christ, then you are Abraham's descendants or Abraham's seed.
Si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham.
And heirs according to the promise.
Et vous êtes héritiers conformément à la promesse.
So we see that not only are we sons and daughters and have the rights as a son and daughter to God.
Et donc on voit que non seulement on est fils ou fille de Dieu et on a les droits qui vont avec ce statut.
But we also inherit with Christ all the things that have been promised.
Mais nous héritons par Christ toutes les choses qui ont été promises par Dieu.
And just briefly, some of the things that we will inherit.
There's a question.
Yeah.
Oui, j'ai une question parce que avant qu'on aille plus loin, par rapport au fait qu'il y a plus de différence.
Before we go any further about the fact that there's no difference.
Yeah.
If we're all considered as one, women and men.
Mm-hmm. Est-ce que on maintient quand même les différences au niveau des ministères?
Is there still a difference in mm-hmm. in regards to ministry?
In regards to ministry as in leadership?
Yeah.
Yes. Okay. Think of the Trinity.
Pensez à la Trinité.
Okay, you have the Father.
Il y a le Père,
the Son,
le Fils,
the Holy Spirit.
Le Saint-Esprit.
They are three.
Ils sont trois.
In one.
En un.
But each three.
Mais chacun des trois
has a different role and mission and part in the overall ministry.
Chacun des trois a sa propre position, son propre rôle, son propre objectif dans la mission de Dieu, dans le travail de Dieu.
They're all equal.
Ils sont les trois sont égaux
in their authority,
dans leur autorité,
and in their Godhead,
dans leur divinité.
They possess the similarities of the Godhead being eternity.
Ils ont les mêmes aspects, les mêmes attributs de Dieu, l'éternité, l'aspect éternel.
The essence of their being God, love, the
l'amour,
power, the all-knowing, the everywhere present. They unchange, all of them. They all possess those things equally.
La puissance, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, ils ont tous ces choses-là en commun.
But they all involve themselves in the mission differently.
Mais leur implication dans l'œuvre de Dieu est différente.
And so even Jesus submitted himself to the role of the Father.
Même Jésus s'est soumis au rôle du Père.
For a time to show God's love for the world.
Pendant un moment pour montrer l'amour de Dieu au monde.
And so in 1 Corinthians chapter 11,
et donc dans 1 Corinthiens 11,
we see that just as Jesus was subservient to God, mankind is subservient to Jesus.
On voit que de la même manière que Jésus s'est soumis à Dieu le Père, l'homme, l'humanité se soumet à Jésus.
And within the family and within the church, women are subject to the authority of pastors and their own husbands, not all men.
Et de la même manière, dans la famille et dans l'église, les femmes sont soumises à l'autorité des dirigeants de l'église et de leurs époux.
But we see that that does not diminish equality or authority. It just certainly shows the roles that God has set forth for this earth.
Mais ça n'est pas pour avoir des inégalités. On est sur un pied d'égalité, mais c'est une question de rôle et de responsabilité dans le monde.
In heaven,
au ciel,
this question will not be the same.
Cette question ne sera plus la même.
But it's the roles that God has set forth on this earth is the way that it is now, and we honor God by obeying those things.
Mais c'est le rôle et les responsabilités que Dieu a établies sur cette terre, et nous honorons Dieu en respectant cette hiérarchie.
Does that make sense?
Ça, c'est bon?
Yeah.
Well, you mentioned 1 Corinthians 11 this week. So how do you interpret the verse?
That makes sense?
À propos de 1 Corinthiens 11, verset 16.
Verse 16?
Yeah. Because it said like that it was kind of like it was at that time. But if somebody wants to change it, then we can discuss it. So why can't we, like, in our culture, change that?
You can repeat the question for the recording.
Was it verse 16?
Verse 16.
Yeah.
What does it say?
It says, if anyone seems to be contentious, we have no such custom.
Okay. I was just checking, because sometimes... So what was your question? I'm sorry.
Well, Paul actually says that it is like for that culture, and that one can discuss about that. Why don't we discuss about that?
Donc verset 16, donc 1 Corinthiens 11 verset 16, il est dit: si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. Et donc elle demandait, est-ce que c'est en quelque sorte Paul qui dit on peut contester ces choses-là, que c'est une question de culture, mais qu'on pourrait contester ces choses.
So what is in question in 1 Corinthians 11:16 is the custom
of men having short hair and women having long hair.
Et la question dont il est qui est ouvert à débat ici, c'est la question des hommes qui de l'habitude que les hommes ont des cheveux courts et les femmes ont les cheveux longs.
And whether or not the Bible says women have to have long hair and men have to have short hair.
Et que la Bible dit s'il est et ce que la Bible pense à propos du fait que les femmes ont, peuvent avoir les cheveux longs ou courts.
Now naturally we can look around the room and we see most women have longer hair than men.
Naturellement, on regarde dans la salle et la plupart des femmes ont les cheveux plus longs que les hommes.
But does a woman have to have longer hair than a man?
Est-ce qu'une femme doit avoir les cheveux plus longs qu'un homme?
No.
Non.
Okay. It's just an example from nature. It's the custom. They don't have to have that custom enforced. Although some people make a big deal about how long a man's hair is.
Donc c'est quelque chose qui vient de la nature que les femmes ont généralement les cheveux plus longs que les hommes. C'est pas une obligation, bien que certains fassent bien des problèmes par rapport à la longueur des cheveux des hommes.
And some parents make a big deal about how long their daughter's hair is.
Et certains parents embêtent leurs filles quand leurs cheveux sont trop longs.
So,
ou pas assez longs.
A woman doesn't have to have long hair and a man doesn't have to have short hair in God's kingdom.
Dans le royaume de Dieu, les hommes n'ont pas besoin d'avoir obligatoirement les cheveux courts et les femmes n'ont pas besoin d'avoir obligatoirement les cheveux longs.
But the principle of authority does not change.
Mais l'idée de l'autorité, de la hiérarchie que Dieu a établie ne change pas.
Does that make sense?
Well, okay, I see just like the hair thing as an example for those three where it says like the woman is like obeys the man.
Mm-hmm.
So it's not actually about hair, it's more about the role, so then that you can discuss the role. Mm-hmm.
Donc elle pense que elle voit ça plutôt comme un exemple de ce qui est dit au verset 3 du chapitre 11 de 1 Corinthiens et des rôles établis par Dieu et que ce serait donc ces rôles qui seraient ouverts à débat.
So there's some confusion on 1 Corinthians 11 in its interpretation.
Il y a souvent de la confusion à cause de l'interprétation de ce chapitre.
But Paul is clearly laying out the headship of man or the husband or the pastors over the women in the church and over the wives.
Mais Paul établit clairement l'autorité ou la responsabilité des hommes dans l'église et dans les couples.
In 1 Corinthians 11, it never actually says what exactly the head covering is.
Et l'idée de ce qui couvre la tête n'est pas très claire.
So some people interpret it to be hair.
Donc certains l'interprètent comme étant les cheveux.
But then you have verses like verse 5.
Mais il y a des versets comme verset 5.
It says every woman who prays or prophesies with her head uncovered, meaning without hair, dishonors her head, for that is one and the same as if her head were shaved.
Voilà. Toute femme qui prie ou prophétise la tête non couverte déshonore son chef ou sa tête à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée.
But clearly, if a woman already had her head shaved, she would need to shave it again.
Et clairement, si une femme avait déjà la tête rasée, elle n'aurait pas besoin de le refaire.
But instead, it's talking about the headship previously in verse 3, that the head of every man is Christ, and the head of woman, or the head of the wife, is her husband.
Mais ça fait référence quand il parle du chef, c'est le déshonore son chef, ça parle de l'homme ou de l'autorité au-dessus de la femme.
And in regards to the custom, it's about growing your hair long or short.
Et l'idée de la coutume, c'est l'idée de se laisser pousser les cheveux longs ou courts.
Not the authority of men and women.
Pas l'autorité des hommes ou des femmes.
Because that would be brought out in other parts of scripture.
Jean.
Yeah.
Je crois aussi quand on cherche à interpréter un passage qui peut porter à confusion, il faut se rappeler du contexte général.
We need to remember the context,
the
general context of the Bible, and interpreting a passage in a certain part.
Et une chose est claire, c'est que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur.
And something that's very clear is that God looks at the heart when considering people.
Si on met un mouchoir sur la tête et qu'on n'en a pas, ça fait une différence. C'est qu'on n'a rien compris à la Bible.
And if we think that putting something over your head or not makes a difference, then you haven't understood anything about the Bible.
Right. Agreed. I agree. All right, let's get back to Galatians.
Retournons à Galates.
So the things that we will inherit as a son of God.
Donc les choses que nous allons hériter en tant qu'enfant de Dieu.
Is number one, we'll inherit property.
La première chose, c'est la propriété.
Matthew 5 says we shall inherit the earth.
Matthieu 5 dit que nous hériterons la terre.
Galatians 5:21 and James 2:5 says we'll inherit the kingdom of God.
Galates 5:21 et Jacques 2:5 disent que nous hériterons le royaume de Dieu.
Romans 4 says we'll inherit, or that we'll be heirs of the world.
Romains chapitre 4 dit que nous serons héritiers du monde.
Spiritually, number 2.
Spirituellement, la deuxième chose que nous allons hériter.
We'll inherit eternal life.
Nous allons hériter de la vie éternelle.
We'll inherit righteousness.
Nous allons hériter la justice.
We'll inherit the blessing.
Nous allons hériter de la bénédiction.
And incorruption.
Et de l'incorruptibilité.
In general, we inherit everything that is God's.
De manière générale, nous allons hériter tout ce qui appartient à Dieu.
And specifically, we inherit God and a relationship with Him Himself.
Et de manière plus spécifique, nous allons hériter Dieu what was the second thing?
I will inherit a relationship with God Himself.
Nous allons hériter de Dieu lui-même et d'une relation avec lui.
Who is the greatest of all, the best inheritance we could possibly have?
Qui est la meilleure chose dont nous pouvons hériter?
All right, so in Galatians chapter 4, Paul gives, carries through the metaphor of being a child growing into a man.
Donc, dans le chapitre 4, Paul va utiliser une métaphore avec l'idée, l'image d'un fils qui devient un homme, un enfant qui devient un adulte.
He says that the heir, the one who is going to inherit it, as long as he is a child or an infant, no more than the age of 3, does not differ at all from a slave, though he is lord of all things.
Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout.
But, verse 2, he is under the care of guardians and stewards until the appointed time by the Father.
Mais il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son Père.
And we see here again that the law, or like verse 3 will say, the basic elements of the world were leading us to a sonship relationship with God the Father.
Et on voit verset 3 que les choses, les principes élémentaires qui régissent le monde, de la même manière que la loi, nous conduisent et nous préparent à devenir enfants de Dieu.
So again, we have God's timing.
On voit encore le temps, la chronologie divine.
And the phrase, the time appointed by the Father, speaks of a perfect completion of time.
Et l'idée jusqu'au moment fixé par son Père donne l'idée de la perfection du temps de Dieu.
And in most cultures, they celebrate the coming of age of a boy. At a certain age, it's celebrated that he is becoming a man.
Et dans la plupart des cultures, il y a une célébration quand les jeunes hommes arrivent à un certain âge, un espèce de rituel pour signifier le passage de l'enfance à l'âge adulte.
And even in general, we recognize that when somebody reaches a certain age, they have more responsibility
as well as more freedom than when they were a baby or three or four.
Et de manière générale, nous sommes tous d'accord que arrivé à un certain âge, les gens ont plus de responsabilités et plus de liberté que lorsqu'ils étaient des petits enfants.
So Paul says in verse 3, even so when we were children, when we were at the age of 3 or 4, spiritually we were in bondage. We were slaves under the elementary things of the world.
Et donc Paul dit, quand nous étions enfants, avec ce mot signifie un petit enfant, 3-4 ans, nous étions soumis, nous étions esclaves des principes élémentaires du monde.
And the word or the explanation of the elementary things of the world has been taken many different ways by interpreters.
Et il y a beaucoup d'interprétations de cette idée des principes élémentaires qui régissent le monde.
But to keep in consistency with the book of Galatians,
mais pour rester consistant avec le livre de Galates dans son ensemble,
I see it as humanity in general,
on peut le voir comme l'humanité au sens général,
in regards to our sin, nature and our fate.
Et notre nature de pécheur et de notre destin.
So before Christ, we were under bondage in slavery to sin, which defined, increased, and encouraged by the law, which we tried to appease through works and worship of things we can't help and aren't God, which exacerbates our fate, which we see to be cynical and depressed and hopeless.
Et donc, lorsque nous étions sans Christ, nous étions comme des enfants soumis, esclaves des principes élémentaires du monde qui sont donc le péché qui était défini et augmenté et encouragé par la loi. Et nous essayons de satisfaire à la loi par les œuvres et par l'observation de règles qui peuvent pas aider et qui n'étaient pas données par Dieu.
And I see in this generation a certain amount of cynicism, which is a reaction to the reality of our humanity.
Et dans cette situation, ça exacerbe une idée de cynisme et de dépression et de manque d'espoir. Et on le voit dans notre génération, dans le monde autour de nous, cette absence d'espoir.
That's why in America you have things like life sucks.
C'est pour ça qu'on voit des gens qui disent que la vie est nulle ou n'a pas d'intérêt.
Which, for the most part, apart from Christ, and in general, unless you're blind, is true.
Et de manière générale, à moins d'avoir Christ et à moins d'être aveugle aux choses, à la vérité, c'est vrai.
And so, one of my cultural languages is movies.
Une des choses importantes dans la culture personnelle de Jordan, ce sont les films.
And the movies that critics usually enjoy are usually base morally.
Et la plupart des films qu'apprécient les critiques sont en général des films qui ont pas vraiment de morale.
And they're exploring the deep, sad, depressed state of man.
Et ils étudient ces films-là, étudient souvent l'état dépravé, sans espoir, glauque de l'humanité.
Because it's true, man is sad, depressed, and depraved.
Parce que c'est vrai, l'homme est triste et dépressif et sans espoir.
And that's why all the happy movies make all the money.
Et c'est pour ça que tous les films heureux et fleurs de rose récupèrent tout l'argent.
Because people want an escape from that reality.
C'est parce que les gens veulent échapper cette réalité et veulent voir des films comme ça.
But what is the first word of verse 4?
Quel est le premier mot, verset 4?
In French.
En français.
Mais. Right? Remember, mais?
Mais, vous vous souvenez du mot mais?
Our answer to the depressed state is not depression or blind happiness.
Notre réponse à notre état dépravé, ce n'est pas la dépression ou une joie sans fondement, une espèce de bliss existentiel. Ouais.
But it says, when the fullness of time had come, at the perfect time.
Mais il est dit juste quand le moment que le Père a fixé est venu, le moment parfait.
God sent forth his son, the answer.
Dieu a envoyé son fils, la réponse.
Born of a woman.
Né d'une femme.
Meaning, signifying like us, we have all been born of a woman.
Né d'une femme, donc comme nous, nous sommes tous nés d'une femme.
He was also born under the law.
Né sous la loi.
He was born underneath this depressed world.
Il était né aussi dans ce monde triste, sans espoir.
To redeem.
Pour racheter.
And this is a key word in the language of the atonement.
Et c'est un mot très important par rapport à l'idée d'expiation.
And it means to, or by payment of a price to recover from the power of another.
Et c'est l'idée de racheter quelque chose, de payer une dette pour prendre le contrôle de quelque chose à quelqu'un d'autre.
So we see that Jesus actually purchased us. We don't know who the purchase price was made to. It was not made to God, and it was not made to the devil, but he purchased us from our depressed state.
Et donc on voit en fait que Jésus nous a achetés. On ne sait pas à qui il a payé la rançon. C'est pas à Dieu ni à Satan. Mais il nous a achetés, il nous a rachetés de cet état dépravé.
And it says in verse 5, to redeem, to purchase those who were under the law. Those of us who suffer in the normal, human, cynical state, we have been purchased out of that, that we might receive instead adoption as sons and daughters.
Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, qui étaient sans espoir dans le monde sous cette vie glauque, il nous a rachetés pour que nous recevions le statut d'enfant adoptif.
So we have two legal words here, not just redemption, which means to give the purchased price to buy back, but we have the legal word of adoption, which speaks of a legal standing that we now have with God in his court of law, where we are literally, in reality, his sons and daughters.
Et donc on a deux mots légaux ici, utilisés dans les cours, l'idée de racheter, l'idée d'être acheté, et aussi l'idée d'adoption. C'est une question de statut vis-à-vis de Dieu, qu'il nous a racheté et nous a donné ce statut d'enfant adoptif qui prévaut quand on est vis-à-vis de lui dans la cour vis-à-vis de lui.
God has placed us and made us children, and this is a family that we now enjoy with him.
Dieu nous a pris et nous a fait enfants. Ses enfants, et nous sommes maintenant dans sa famille, et nous pouvons profiter et vivre et profiter de cet état, de ce statut en lui.
And just curious, if I could just take a real brief survey, how many of you feel like sons and daughters of God?
Parmi vous, juste faire un petit sondage, combien d'entre vous vous sentez enfants de Dieu?
Now, how many of you don't feel, honestly, like you're a son or a daughter of God?
Et parmi vous, combien d'entre vous ne vous sentez pas enfant de Dieu?
Okay. Two, honestly. How many of you sometimes feel like you're not a son or a daughter of God?
Parmi vous, combien d'entre vous ne, parfois avez l'impression que vous n'êtes pas enfant de Dieu?
Most people. Because of this battle which is within us that would try and cause us to doubt the legal standing of our relationship with God, we have verse 6.
On voit qu'il y a en fait un combat à l'intérieur de nous-mêmes et il y a quelque chose qui veut nous faire douter de ce statut dont nous disposons, dont nous bénéficions devant Dieu.
It says, because you are legally sons and daughters, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts.
Et on voit, verset 6, c'est parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie, Abba Père.
So again, just in verse 6, we see the work of the Trinity going on. They are in unity. Also with difference of ministry.
Là, on voit encore le travail de Dieu dans la Trinité avec les trois rôles du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui œuvrent ensemble mais qui ont des rôles différents.
And the Spirit comes into our hearts and the word crying out means to call aloud.
Et ici, on voit que l'Esprit vient dans nos cœurs et crie. Et ce mot de crier veut dire prononcer les choses, les crier.
And it reminds me that I am a son of God.
Et ça nous rappelle, ça me rappelle que je suis enfant de Dieu.
Because honestly, I forget all the time.
Parce que, pour parler honnêtement, je l'oublie très régulièrement.
I know I have been baptized into Christ. My nature has changed.
Je sais que j'ai été baptisé en Christ, que ma nature a changé.
I know that I've been clothed with Christ. I seek to be led and inspired by Him.
Je sais que je suis revêtu de Christ. Je cherche à être guidé, à être inspiré par Lui.
Because of my forgetfulness of mind, I need to be reminded by the Spirit of who I truly am in Christ.
Mais à cause de ma nature et du fait que j'oublie souvent les choses, il faut que qu'on me rappelle régulièrement que je suis enfant de Dieu.
So I see this phrase, Abba Father.
Et donc on voit cette phrase Abba Père,
which simply means papa or daddy, like an intimate child would call their father.
Qui veut simplement dire papa, c'est une idée de d'affection, c'est le terme qu'utiliserait un enfant pour son père.
Is a spirit reminded recognition of how God regards me as His son.
C'est pour nous rappeler comment Dieu me considère comme son enfant.
And Jesus himself used this phrase.
Jésus lui-même a utilisé cette phrase.
In Mark chapter 14 verse 36.
Dans Marc 14, 36,
Paul also uses this phrase in Romans chapter 8, verse 15.
Paul utilise aussi ces deux mots dans Romains chapitre 8, verset 15.
And it has played a major part in church history. We have things called the abbot or the abbey.
Et ça a joué un rôle important, on le voit dans l'histoire de l'Église, dans l'idée des abbayes.
But in general, it reflects a change in relationship which was brought in with the new covenant, that God is not only our transcendent, all-powerful God, but He is also our imminent, close-by Father.
Et c'est quelque chose qui traduit le changement de notre relation avec Dieu, ce passage où Dieu qui était et qui est Dieu tout-puissant, qui transcende toute la création, est maintenant devenu notre Père, comme un Père proche et intime.
So if you feel yourself doubting or questioning your legal standing in relationship with God,
et si vous avez un doute concernant votre statut légal vis-à-vis de Dieu,
ask God through the Spirit to remind you of that truth.
Demandez à Dieu de vous rappeler cette vérité par son esprit.
And if you're extremely eager,
si vous êtes très zélé ou très excité,
you can look at Jesus's use of this phrase in Mark chapter 14.
Vous pouvez regarder dans Marc chapitre 14 comment Jésus utilise ce terme.
And you can see how what that phrase meant to him, how he treated God, his Father, in relation to that phrase.
Et vous pouvez regarder comment Jésus se comportait vis-à-vis de Dieu, parler à Dieu, considérer Dieu avec l'utilisation de ces deux mots.
Because Abba Father is not just something you cry out because you're hopeless.
Parce que Abba Père, c'est pas quelque chose qu'on crie quand on est en situation désespérée.
Although that is helpful.
Quoi que ça puisse aider.
But it's something that reminds us again of our change of nature and of our change of leadership.
Mais c'est quelque chose qui doit nous rappeler notre changement de nature et le changement de celui qui nous guide, qui nous inspire.
So, Paul concludes in verse 7.
Et donc, Paul conclut verset 7.
He says, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ.
Il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ.
Again, Paul is bringing us back to the freedom and the rights that we have as sons of God, as God as our Father. That we are stable, safe, prosperous, educated, legally we've been adopted, we have access to God, we have freedom. Sorry.
You're on a roll this morning. Et donc, il nous rappelle le statut et la liberté et les droits que nous avons en tant que fils de Dieu, que nous avons la stabilité, la sécurité, la prospérité en Dieu.
And that we also have a future inheritance with God and Jesus Christ.
Et que nous avons un héritage dans le futur en Dieu et en Jésus-Christ.
All right, let's take a break.
On va faire la pause.